Les cours du Collège de France, Laurent Coulon, chère civilisation de l'Égypte pharaonique.
Bonjour à tous, et bien évidemment d'abord je vous souhaite tous mes voeux pour une très belle année 2025. Pour cette dernière séance de ce cours de l'année, dont le sujet portait sur la cour et les courtisans des premiers temps de l'histoire pharaonique jusqu'au Moyen-Empire, nous allons poursuivre aujourd'hui l'étude de textes que nous avions commencé à aborder lors de la précédente séance, à savoir les textes sapientiaux, les sagesses. Nous avions vu que ce genre de textes, dénommé sébaïte, enseignement, apparaissait à proprement parler au Moyen-Empire et mettait en scène dans de nombreux cas, au sein de son prologue, un personnage portant de hauts titres de cour, qui transmettait ainsi dans le contenu de son enseignement les valeurs de la cour, la loyauté au roi, le respect de l'étiquette, l'autocontrôle propre aux courtisans notamment. Alors qu'il existe un lien de consubstantialité entre le contenu des textes sapientiaux et l'étiquette de la cour me semble bien illustré par l'épilogue d'un texte qu'on appelle l'enseignement pour Kagemni. Ce texte est connu par le papyrus Pris, hein, le même papyrus qui comporte le manuscrit principal de l'enseignement de Taotep. On le date de la 12e dynastie. Et donc, dans ce texte, alors que le vizir qui parle reste anonyme, un certain Kagemni, qui apparaît dans l'épilogue comme le destinataire de l'œuvre, est présenté comme le vizir de Snéfrou. C'est une figure sans référence historique réelle, même si le vizir Kagemni de la 6e dynastie, attesté archéologiquement, a pu lui servir de support. Donc on retrouve là, évidemment, le caractère fictif des attributions des enseignements à des auteurs qui sont de hauts personnages, mais qui sont des figures historiques relativement nébuleuses. Alors, dans l'épilogue du texte, on a en quelque sorte le processus de délivrance de l'enseignement sous une forme finalement relativement ramassée. Alors, le vizir fit convoquer ses siens enfants après qu'il eut compris la nature des hommes, leur comportement se trouvant être chose parvenue à son entendement. En définitive, il leur dit « Quant à tout ce qui se trouve par écrit sur ce rouleau-ci, écoutez-le tel que je l'énonce, n'outrepassez pas ce qui a été fixé. » Aussitôt, ils se mirent sur leur ventre, aussitôt ils se mirent à lire en suivant ce qui se trouvait par écrit, aussitôt ils en ressentirent plus d'agrément qu'en quoi que ce soit qui se trouve dans le pays tout entier. Aussitôt, ils se comportèrent conformément à cela. » Alors, le texte lui-même de l'enseignement comprend une série de recommandations invitant au contrôle de soi et de sa parole, aussi au contrôle de ses pulsions envers la nourriture, en invitant celui qui le lit à ne pas se ruer sur la nourriture avant que son maître se soit servi, etc. On recommande aussi d'éviter les excès de colère ou de forfanterie. Ici, vous le voyez, la réception de l'enseignement par les enfants du vizir se fait sur le modèle d'un cérémonial de cour, dans lequel les enfants sont convoqués, se prosternent, puis se retirent. Et c'est, à mon avis, très représentatif de la nature même de l'enseignement, même si la portée de l'éducation fournit ce vœu général, au-delà du comportement du respect de la simple étiquette, il n'y a pas en fait de distinction pour un courtisan entre son comportement en représentation à la cour, sa manière d'être en tant que courtisan, et celle qu'il va adopter dans toutes les circonstances de la vie. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que la réception de cet enseignement par les enfants se fait comme celle d'une récompense à la cour qu'ils reçoivent et que l'enseignement va faire en quelque sorte effet de manière immédiate à la manière de formules magiques qui seraient prononcées, lues par les récepteurs de l'enseignement. Il y a donc, mais cela a été déjà montré dans plusieurs passages que j'avais même cités en introduction de ce cours, il y a donc une adéquation très claire entre le contexte de la cour, le modèle de la cour et ce qui est transmis dans les textes sapientiaux. Pour ce qui concerne le public visé par les enseignements, ce qui n'est pas forcément identique à ce qui est mis en scène, évidemment, dans les prologues, eh bien, ce public peut paraître différé selon les textes, comme il ressort des études que nous avions citées de Pascal Vernus ou d'Ursula Verhoeven à propos des graffitis d'Asiut. On l'avait vu, donc, la semaine dernière. Ursula Verhoeven souligne que alors que l'enseignement d'un homme à son fils explique à un apprenti scribe de la classe moyenne comment s'élever socialement et parvenir à entrer à la cour, l'autre enseignement présent majoritairement donc à Asiut, l'enseignement de Orjedef, Orjedef étant un prince royal vivant au sein de la cour, cet enseignement d'Orjedef n'aborde pas les considérations d'ascension sociale, on est dans un monde en quelque sorte aplani, et les recommandations se concentrent surtout sur le comportement éthique à suivre. Alors, de son côté, l'enseignement de Ptahotep, le classique des classiques, révélerait de prime abord une certaine polyvalence, le public visé étant soit dans une position subalterne, par exemple celle d'un messager ou d'un homme de confiance, soit dans la position d'un dirigeant. Alors l'inventaire des caractérisations sociologiques qui transparaissent dans Ptahotep et qui sont relativement nombreuses, hein, la plupart des maximes renvoient à un cas particulier ciblant le positionnement social de celui qui est destinataire du conseil. Donc Pascal Vernus a dressé cet inventaire dans un article qui s'intitule « Le discours politique de l'enseignement de Ptahotep ». Il faut comprendre évidemment le discours politique dans un sens très large. On s'aperçoit que dans certaines maximes, on s'adresse à quelqu'un qui est en situation de supériorité hiérarchique, un dirigeant, un séchémi, ou un homme bien-né, l'expression égyptienne c'est Sa'es, fils d'un homme, un homme puissant, important, on utilise là les adjectifs Ouzer ou A. Mais dans d'autres cas, le destinataire de l'enseignement se trouve dans un état de subordination hiérarchique, au contraire. Il y a même une maxime où on dit « si tu es misérable et que tu veux sortir de cette situation », alors on l'invite à entrer au service d'un homme aisé. Dans d'autres cas, on s'adresse à quelqu'un qui est dans la position d'un homme de confiance, de son maître, qui transmet des messages, etc. Donc, une certaine variété dans le positionnement des destinataires des conseils. Alors la promotion sociale, et c'est bien souligné aussi par Pascal Vernus, qui avait consacré un de ses articles très célèbres au type du parvenu en Égypte ancienne notamment, donc la promotion sociale fait partie du tableau dynamique de cet enseignement de Ptahotep. Dans certaines maximes, on s'adresse aux destinataires en disant « si tu deviens important après avoir eu une position modeste et que tu acquiers du bien après avoir été d'abord démuni ». Donc on prend en compte le dynamisme de la société, la possibilité de s'élever socialement Et on avait vu d'ailleurs que le système de la cour égyptienne permettait l'ascension sociale de personnes vivant d'abord dans une position subalterne avec un titre qui marque leur infériorité par rapport aux grands courtisans, et que ces personnes pouvaient être promues ensuite par la faveur royale. Alors, le conseil d'ailleurs que donne Taotep, c'est dans cette situation hein, d'un parvenu de ne pas faire référence au passé ni de se vanter de sa fortune nouvelle. Pascal Vernus en déduit que le public visé est avant tout cette classe de bureaucrates et d'administrateurs si caractéristiques de la société égyptienne qui sont en quelque sorte les dominés de dominants, ceux qui se trouvent en quelque sorte au service des courtisans, au service de ces dignitaires sérous que nous avons déjà largement vus. Et ces dignitaires servent en quelque sorte de modèles socio-culturels. Alors cela rentre évidemment un peu en contradiction avec le cadre narratif de l'enseignement, puisque la personnalité de l'auteur fictif Taotep est celle d'un haut personnage, hein, et il est évidemment un peu incongru qu'il s'adresse parfois à des personnes de conditions inférieures. Mais en quelque sorte, ce Ptahotep, cette figure de l'auteur, définit l'horizon social auquel aspirent les apprentis scribes auxquels il s'adresse fictivement dans l'enseignement. Et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est que même si les conseils peuvent parfois paraître dérisoires dans leur portée ou relatifs simplement à des comportements qui ne sont pas ceux de la cour à proprement parler, en tout cas, au fil des maximes, ce que cherche à faire Ptahotep, c'est à dresser un portrait du dignitaire, du serf idéal, qui marque en quelque sorte un horizon d'identification pour les apprentis, même d'extraction les plus modestes. Et en même temps, évidemment, ce portrait du dignitaire idéal, c'est aussi un autoportrait de l'auteur de l'enseignement qui célèbre lui-même la valeur de ses préceptes. Alors on a un passage qui est très caractéristique cet état de fait que je viens de décrire dans l'enseignement de Taotep, où on voit donc Taotep évoquer en quelques phrases ce que c'est qu'un parfait dignitaire, quelqu'un qui est au sommet de son art, de sa perfection, quand il nous dit, donc le dignitaire, le serf, au sommet de sa perfection, son cœur est articulé à sa langue, ses lèvres sont exactes tout le temps qu'il parle, ses deux yeux ne cessent d'observer, ses deux oreilles se trouvent accordées à écouter ce qui est utile à son fils. Donc là, évidemment une référence au processus d'enseignement, lui qui accomplit la Mahat en étant exempt de mensonges. Donc là, on a une caractérisation très claire du cerf dans sa complétude, en quelque sorte physique et morale, dans son attitude quotidienne, quelqu'un qui se contrôle parfaitement, qui articule son esprit et son discours, qui est attentif en permanence à la situation autour de lui, et Dieu sait si cette attention, cette permanence est nécessaire dans le contexte très tendu de la cour, et quelqu'un aussi qui suit des préceptes moraux, et c'est ça aussi l'une des dimensions importantes de ces enseignements, c'est qu'elles articulent le comportement à suivre dans des contextes de la vie courante, dans des contextes qui se conforment à l'étiquette de cours, avec des conceptions morales plus larges, où c'est le Dieu qui surveille en quelque sorte le comportement moral du dignitaire. Donc pour contribuer à former le courtisan idéal, Ptahotep va délivrer une série de prescriptions concernant la manière dont il faut régler ses interventions, transmettre un message, parler de soi, de son maître ou des autres. Bref, ce que j'avais appelé la norme du savoir-parler selon toutes les contraintes imposées par la société de cours. Alors le passage suivant montre la manière dont justement s'articule pratiquement l'impératif de contrôle de soi et la valorisation individuelle par le discours. Voilà ce que dit Ptahotep. Dissimule ta pensée, contrôle ton propos. C'est l'idée d'enfoncer son cœur à l'intérieur de soi, hein, de ne pas le laisser sortir. Hein, c'est très clair métaphoriquement dans le vocabulaire égyptien qui ressort à la fois de ces textes sapientiaux et des autobiographies contemporaines. Alors ton avis sera reçu parmi les dignitaires, les sérous. Sois patient. La notion de war-ib est fondamentale. Au moment de t'exprimer, afin de dire quelque chose qui soit distingué, alors les dignitaires sérous qui auront écouté diront « Comme est parfait ce qui sort de ta bouche ». Ce qui est important ici, et ce qui est aussi fondamental dans la perception aussi la compréhension par les Égyptiens anciens de ce que c'est qu'un discours, de ce que c'est que la rhétorique. Donc c'est quelque chose dans lequel je ne vais pas entrer de manière précise ici même, mais évidemment qui est fondamental. C'est-à-dire qu'on attribue souvent la compréhension de la force du discours, des capacités de la rhétorique à la Grèce ancienne, au miracle grec. Bon, on va s'apercevoir dans tous les textes que l'on va voir, et il y en aurait bien d'autres, que cette perception des pouvoirs du discours et aussi l'art de la rhétorique dans son art de l'à-propos, dans sa puissance liée au contexte d'énonciation, tout cela est parfaitement déjà maîtrisé et connu des Égyptiens anciens dès le Moyen Empire. Ce qui ressort de ce texte, vous le voyez, c'est que la force de persuasion du discours, sa puissance rhétorique, ne réside pas dans son seul énoncé, le fait de dire un bon mot, dans sa magie propre, pourrait-on dire, mais dans son adaptation à un contexte dans lequel c'est l'avis de l'auditoire qui va décider de la réussite ou non de cet acte de parole. Le savoir ne suffit donc pas, il faut développer une véritable stratégie contextualisée en quelque sorte, où une phase préliminaire d'observation et de retenue est nécessaire pour jauger l'impact de son intervention au milieu d'un auditoire. Et ça, c'est particulièrement important. On sort en quelque sorte d'une conception purement magique de la valeur de la formule prononcée. Hein, on entend souvent de manière rapide chez certains que pour les Égyptiens, dire une chose, c'est la faire exister. Certes, dans certains contextes très précis, dans certains contextes magiques, mais dans le contexte de la cour ou de la vie quotidienne, ils ont la perception très claire qu'il ne suffit pas de dire quelque chose pour que cela se réalise. Il faut en convaincre l'auditoire, il faut que cette chose soit dite dans un certain contexte, qu'elle reçoive des conditions de réalisation, d'efficacité, qui entraîne aussi un certain art du discours, un certain art de dire et art de bien dire dans un contexte particulier. Alors on connaît par ailleurs un autre passage célèbre de l'enseignement de Ptahotep, où celui-ci détaille précisément l'attitude que l'orateur doit adopter dans un débat en fonction de l'adversaire qu'il a devant lui. Alors c'est un passage célèbre, je ne vais pas le lire intégralement. On a trois maximes, en fait, sur une structure ternaire, qui commencent chacune par « si tu te trouves face à un polémiste », et le mot « polémiste » est déjà issu, est assez rare, mais est employé ici dans un sens technique, hein, d'un orateur doué pour la polémique. Donc, si tu te trouves face à un polémiste en action, et à chaque fois, on a une caractérisation différente, quelqu'un qui maîtrise son esprit avec plus de talent que toi, ton égal qui est de ton niveau, ou quelqu'un qui soit piètre et ne t'égale pas. Et dans ces trois cas, on va détailler l'attitude à adopter qui se fonde sur un même impératif, celui de jouer sur le silence, la retenue, et surtout viser à emporter l'adhésion de l'auditoire. Dans le cas d'un adversaire expérimenté, il faut se garder de dévoiler sa faiblesse et laisser l'adversaire se déconsidérer par une prestation que l'on feint de traiter par le mépris. Dans le cas d'un débat avec un égal, il s'agit de pousser l'adversaire à la faute. Vous avez le texte ici. « Si tu te trouves face à un polémiste en action, ton égal qui est de ton niveau, c'est en gardant le silence durant le temps qu'il tient un mauvais discours que tu dois faire apparaître que ton talent est supérieur au sien. L'écho en sera grand parmi les auditeurs, ta réputation s'en trouvant embellie dans l'opinion des dignitaires, les sérous. » Et dans le cas d'un rival inférieur, une démonstration sans retenue de puissance amènerait à se dévaluer auprès d'un auditoire déjà acquis, et il faut donc faire preuve de contrôle et laisser l'orateur inférieur s'enferrer lui-même dans son piètre discours. Donc, on le voit, la théorie de Ptahotep sur l'art du discours ne comporte pas réellement de conseils sur les figures de style à employer, même s'il y en a, sur la construction même du discours, mais surtout sur le contexte, l'évaluation de la situation qui est nécessaire dans la bonne appréciation du moment où il faut s'exprimer plutôt que se taire. Alors on a dans l'enseignement de Ptahotep l'un des premiers textes de l'histoire de l'humanité définissant ainsi l'art du courtisan, alliant les qualités morales et le contrôle de soi, qui permet de prononcer la parole appropriée au moment approprié, les deux ne pouvant être dissociés. La distinction du propos, on l'avait vu dans le texte précédent, ressort autant du contenu du propos que du contexte dans lequel il est prononcé. Alors, pour élargir en quelque sorte nos horizons, je vais faire un petit pas de côté, puisque cette thématique du contexte dans lequel le courtisan doit s'exprimer, c'est une thématique que l'on retrouve en permanence dans ce qu'on appelle la littérature des manières du XVIe siècle, au moment de la Renaissance italienne, avec des œuvres qui se distinguent dans cette littérature abondante sur la manière de se comporter, comme bien sûr le fameux livre du courtisan de Baldassare Castiglione, qui a été publié en 1528 et qui est une sorte de référence obligée dès qu'on parle de courtisans dans une approche historique. Alors, dans cette œuvre, que vous avez peut-être lue, l'auteur, reprenant les modèles classiques platoniciens ou cicéroniens, cherche à définir la nature du courtisan et les qualités qui le définissent, et pour cela va mettre en scène des dialogues de courtisans de la cour d'Urbino, qui, au cours d'un jeu organisé par l'auteur, qui va s'étaler sur 4 soirées, vont échanger sur la définition de ce que c'est qu'un parfait courtisan. Donc c'est un échange de vues entre ces interlocuteurs qui ont une longue expérience de la cour pour parvenir à un consensus sur les caractéristiques fondamentales du courtisan. Alors on va en lire 2 extraits. Le premier, c'est pourquoi il est nécessaire que notre courtisan soit précautionneux dans tous ses actes et qu'il accompagne toujours de prudence ce qu'il dit ou fait. Que non seulement il se mette en peine d'avoir en lui des qualités particulières excellentes, mais qu'il ordonne et dispose sa manière de vivre de telle façon que le tout corresponde à ses parties et qu'il veille à n'être jamais discordant avec lui-même, mais qu'il fasse un seul corps de toutes ses bonnes qualités. Ainsi, chacune de ses actions se trouvera composée de toutes les vertus, ce qui, selon les stoïciens, est le devoir du sage, bien que pourtant, en toute action, une vertu soit toujours la principale. Mais elles sont toutes tellement liées et enchaînées ensemble qu'elles vont vers une seule fin et peuvent toutes concourir et servir à chaque effet. Donc c'est un texte qui met l'accent sur la nécessaire cohérence de la personnalité du courtisan entre ses qualités morales et l'expression qu'il en donne au quotidien. Et on le voit, on pense tout de suite à la manière dont sont conçus les portraits autobiographiques égyptiens, mais aussi les portraits du courtisan idéal dans les textes égyptiens anciens, la manière dont le kaléidoscope des qualités morales de l'individu doit se composer autour d'un principe moral structurant qui en définit en quelque sorte le cadre et l'ordonne. Dans le deuxième texte, on s'attache justement à la question du contexte qui nous intéressait tout à l'heure. L'interlocuteur dit « Je veux donc que notre courtisan, dans ce qu'il fera ou dira, se serve de certaines règles universelles qui, à mon avis, contiennent en bref tout ce qu'il m'appartient de dire. Pour la première et la plus importante, qu'il fuit surtout l'affectation, comme hier au soir le comte l'a bien rappelé. » Alors il y a tout un débat, tout un développement dans le livre du courtisan sur ce rejet de l'affectation, de paraître artificieux, de certes placer un bon mot, mais de manière non naturelle, qui gâche en quelque sorte toute la prestance du courtisan et le condamne à la médiocrité. Le courtisan doit faire preuve d'un certain détachement, d'un certain naturel, et même dans les compositions, dans les procédés les plus calculés qu'il adopte, il doit les présenter comme si, en fait, il le faisait de manière tout à fait improvisée. Ensuite, qu'il considère bien quelle est la chose qu'il fait ou qu'il dit, le lieu où il l'a fait, en présence de qui, en quel temps, la cause pour laquelle il l'a fait, son âge, sa profession, la fin où il tend et les moyens qui peuvent l'y conduire, et par de telles considérations qu'il se dispose discrètement à tout ce qu'il veut faire ou dire. Donc là, on a exactement ce qui me semble être décrit dans les maximes de Taptep, c'est-à-dire ce moment de retenue qui est le propre de l'attitude du parfait courtisan, ce moment où le courtisan scrute la situation dans ses moindres détails, scrute le contexte et va s'engager dans une action ou dans une parole après avoir bien réfléchi à son opportunité. On retrouve d'ailleurs ici, dans le texte, la notion de discrétion, discrètement. Hein, et c'est l'un des points qui a été souligné par Alain Pons, qui a produit une édition du texte du livre du courtisan chez Flammarion, et a également consacré un article à la notion de discrétion dans la littérature des manières du XVIe siècle. Ce qui intéresse précisément Castiglione, c'est de montrer qu'à l'intérieur des relations horizontales qui s'exercent donc entre les courtisans, donc, à distinguer des relations verticales entre le courtisan et le prince, eh bien, il n'y a d'harmonie que si les qualités individuelles de chaque courtisan sont reconnues, homologuées par les autres. Ce que désire donc Castiglione, je cite Alain Pons, c'est de faire dire aux courtisans de quelle manière et en quel temps il doit se servir des bonnes qualités qui sont en lui et pratiquer ce qu'il convient de savoir. Et il conclut, les actes, les propos, quelle que soit leur valeur intrinsèque, ne seront appréciés par les autres qu'en regard du moment où ils ont été accomplis ou tenus et de la manière dont ils l'ont été. Alors, même si on est dans un contexte tout à fait différent et il n'est en aucun cas question de projeter un univers sur l'autre, la lecture de ce texte du livre des courtisans, je crois, enrichit notre appréciation du texte de Ptahotep, la manière dont l'auteur réfléchit sur la qualité des comportementales du dignitaire en fonction de son adéquation aux situations, avec l'importance aussi de la retenue, de la réflexion initiale qui doit préluder à toute intervention à la cour. Donc tout cela rejoint exactement ce qui est dit dans le livre du courtisan sur ce qui définit intrinsèquement l'homme de cour qui maîtrise son art à la perfection. L'éloquence est donc autant une affaire de maîtrise du silence à la cour, autant qu'une maîtrise de la parole. Et tout dépend de la situation et de l'état de préparation mentale dans lequel se trouve le courtisan. On peut en donner encore d'autres exemples pour revenir à Ptahotep. Hein, vous en avez un extrait très, très explicite dans ce passage où il dit « Si tu te trouves être un homme compétent et qui siège au conseil de son maître, concentre ton esprit sur le pertinent, à toi de garder le silence, c'est plus utile que le bavardage. Ne parle que quand tu te seras rendu compte que tu as dénoué l'entrelac. » Donc l'idée qui est sous-jacente, c'est que l'expert égyptien, c'est celui qui sait dénouer un nœud. Le nœud aussi étant le terme qui exprime l'idée de maxime, de bon mot, de quelque chose qui concentre en quelque sorte l'expression sous une forme compacte. Et celui qui sait réfléchir à la réalisation, mais aussi au dénouement de ces nœuds, de ces problèmes, c'est celui qui atteint la perfection de l'art rhétorique. Donc ne parle que quand tu te seras rendu compte que tu as dénoué l'entrelac. C'est uniquement à l'expert en éloquence, Hemu, de s'exprimer devant le conseil. Le discours est plus difficile que toute autre activité, seul celui qui en dénoue l'entrelac la maîtrise. Ce qui est particulièrement notable ici, c'est qu'on a une catégorisation de l'art de la parole comparé à d'autres activités qui sont présentées comme inférieures en quelque sorte ou moins difficiles. La parole ici est conçu comme, en quelque sorte, une activité professionnelle en soi qui doit être maîtrisée par un expert. Hemu, c'est le terme qui sert à définir en Égypte ancienne tout ce qui concerne l'art et l'artisanat. Et donc le mot hemut pour désigner l'art de la parole est attesté dès l'Ancien Empire avec cet art de la bouche qui est caractéristique à l'Ancien Empire de la pratique des prêtres-lecteurs. Donc cette technologie du verbe qui se déploie notamment dans les textes funéraires des textes des pyramides. Le glissement qu'on voit apparaître à la fin de l'Ancien Empire, à la première période intermédiaire, et qui est théorisé en quelque sorte dans des textes comme l'enseignement de Tao Tep, c'est que cette expertise dans le domaine de la parole est devenue une activité entre guillemets profane, détaché en quelque sorte de tout lien avec la pratique magique ou funéraire, et qu'on peut la concevoir comme une activité que l'on exerce dans la vie sociale courante. Alors, évidemment, quand je décris ce processus vers un art profane de la parole, un art de l'éloquence qui soit propre au conseil et aux réunions de la cour, je gomme certainement le lien qui reste quand même relativement fort avec tout l'univers de la parole magique. Et vous comprenez bien que je ne suis pas ici en train de vouloir calquer ce qui se passe dans le domaine grec, où on a effectivement un processus de laïcisation de la parole qui se produit au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, hein, qui a été très bien décrit d'ailleurs par Marcel d'Étienne hein, dans Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque. Ce serait forcément abusif de reprendre ce modèle et de le calquer sur ce qui se passe dans le domaine égyptien. Il n'en reste pas moins qu'on a dans des textes comme l'enseignement de Ptahotep une vision de la pratique de la parole qui paraît détachée de tout fonctionnement religieux ou magique. Et on l'a vu aussi avec l'importance de l'avis de l'auditoire qui valide en quelque sorte la valeur du discours. On est ici dans un fonctionnement qui s'approche d'une rhétorique de persuasion qui devient une technique à part entière, réservée à des spécialistes qui doivent être formés, puisque c'est une activité difficile, mais c'est une activité qui finalement est catégorisée dans le même ensemble que les autres catégories d'activités de la société égyptienne. Alors, si on ne se limite pas à l'enseignement de Ptahotep, on va trouver dans d'autres enseignements des caractérisations relativement semblables sur le rôle du discours maîtrisé, de cette technologie de la parole, de cet art rhétorique qui doit être acquis par le futur courtisan. Dans l'enseignement d'un homme à son fils, on a la maxime suivante: c'est de la justesse de langue que naît l'excellence. Un propos mensonger ne saurait passer inaperçu. Il n'y a pas possibilité de maquiller ce que l'auteur du propos a fait valoir. On ne peut espérer un manque d'attention si bien qu'une expression malheureuse demeure. Donc en fait, on peut penser que la parole, c'est finalement anodin, qu'on peut la prononcer, qu'elle s'efface. En fait, l'auteur nous dit qu'au contraire, une expression malheureuse est aussi grave finalement qu'une action défaillante et donc que son souvenir va rester. Celui dont le propos est compris est quelqu'un qui conquiert l'excellence sur la natte. Et là, l'expression sur la natte renvoie à quelque chose qui se passe en étant assis dans une discussion. On va la revoir plusieurs fois, c'est en quelque sorte l'équivalent de par la discussion ou par la diplomatie. La vérité est utile à qui est capable de la dire. Ce que nous dit le texte, c'est que les conséquences de la parole ne sont en rien moindres que celles d'une action physique. Parler, c'est marquer le monde de son empreinte, qu'elle soit positive ou négative, et cela a un impact réel aussi bien qu'un coup porté ou qu'une bonne action. Alors vous avez noté à la fin du passage cette phrase « La vérité est utile à qui est capable de la dire ». Alors pour ceux qui lisent les textes égyptiens, cela fait véritablement penser à ce qu'on trouve à la fin des formules funéraires destinées à assurer le voyage du mort dans l'au-delà. Dans les coffin textes, les textes des sarcophages, on va trouver des formules du type « C'est efficace pour l'Osiris un tel, éternellement et à jamais, c'est très bon ». En fait, c'est une sorte de notice d'efficacité ajoutée à la fin de la formule qui montre son efficacité magique. Dans le chapitre 71 du livre des morts, on va avoir cette formule « c'est très efficace pour un homme dans la nécropole ». Là encore, une formule, une sorte de métadiscours marquant l'efficacité de la formule funéraire. On le voit ici, l'emploi de cette formule « la vérité est utile à qui est capable de la dire » souligne encore le pouvoir contenu dans la parole, qui est en quelque sorte plus qu'un quelque chose de d'évanescent, mais au contraire une véritable action quasiment magique sur son entourage et le contexte dans lequel évolue le locuteur. Alors, ce genre de formule qu'on va retrouver dans beaucoup de textes de sapientiaux et jusqu'à très tard, je ne peux pas résister à l'envie de vous citer deux passages d'un enseignement démotique cette fois-ci, donc qui date du premier millénaire avant Jésus-Christ, dans la tradition des textes sapientiaux qui se poursuit jusqu'à très tard dans l'histoire pharaonique. Donc c'est l'enseignement de Rachechonki, où il dit à deux reprises « Tu feras peut-être un faux pas dans la maison d'un notable, mais tu ne devras pas déraper avec ta langue. Hein ». Donc il est quasiment plus grave se rater, entre guillemets, sur une parole adressée au maître que de trébucher face à lui. Et une autre phrase nous dit explicitement « Une parole malheureuse à la cour, c'est comme une faute à la barre en mer. » Donc cela peut paraître anodin. En fait, cela engage toute la trajectoire du courtisan face au roi et face aux autres courtisans qui l'entourent. Et on a des exemples célèbres en tête. Le bon mot qui ne passe pas d'un courtisan peut l'amener à sa déchéance complète pour peu que la faveur royale lui soit retirée. Dans cet autre passage de l'enseignement d'un homme à son fils, on voit comment l'attitude préconisée est fondée sur le contrôle de soi qui se traduit par des attitudes codifiées, qui sont celles que nous avons passées en revue dans les représentations de la cour. Donc je lis le texte. Suscite de l'amour pour toi parce que ton attitude est respectueuse. N'aie pas une attitude insolente, littéralement ne sois pas haut d'épaule,
quand on s'adresse à toi. Sois attentif aux subalternes, c'est le réservé qu'on respecte. Marque de la courtoisie à celui qui marque de la courtoisie sur le chemin. De même qu'on invite le mesuré à parler, de même on écarte le hâbleur, qui se trouve rabroué en raison du volume de sa voix. Donc là, c'est évidemment la qualité de discours de la personne qui va déterminer le respect qu'il inspire, son aptitude aussi à se conformer en quelque sorte aux règles de l'étiquette, de la maîtrise du silence, de l'autocontrainte, qui vont permettre au personnage, enfin au destinataire du conseil, de susciter le respect de ceux qui l'entourent. Alors j'attire votre attention sur le mot qui a été traduit par « marquer de la courtoisie » par Pascal Vernus. C'est ici le mot « taire » qui renvoie à l'idée de respect et de déférence. Alors, le respect peut être tourné vers une divinité, hein, on respecte un dieu, mais il peut être orienté, notamment dans les textes sapientiaux, vers des inférieurs. Et c'est particulièrement notable ici que l'on ait l'image d'un respect mutuel qui soit mis en avant sur des bases qui ne soient absolument pas des bases de hiérarchie. Alors on retrouve dans l'enseignement de Tao Tep le même terme qui est employé dans la formule suivante « Respecte tes partisans, rester choutek, et tu auras du bien, littéralement ta richesse augmentera ». Cette notion de respect qui s'instaure, qui s'établit indépendamment du statut social, que ce soit lors d'une rencontre sur un chemin ou dans le cadre de la cour ou de la maisonnée, participe certainement d'une civilité qui se définit maintenant explicitement comme une valeur cardinale de la société égyptienne. Et donc on voit dans le texte de ces enseignements se construire en quelque sorte un mode de sociabilité qui est tout à fait spécifique au contexte de la cour et au modèle qu'il diffuse en quelque sorte dans la société, celui d'une sorte de civilité qui n'est pas liée nécessairement à la position des individus dans la société, mais à un sentiment d'appartenance à un même contexte culturel. Alors la thématique sur laquelle nous souhaiterions nous attarder quelque peu maintenant, c'est la question du contrôle de la violence, qui est le corollaire de la mise en place d'une société de cour. En tout cas, c'est l'une des idées qu'avait développé Norbert Elias dans ses travaux sur le processus de civilisation. Il voyait dans la mise en place de la société de cour une forme de cette monopolisation étatique de la violence. À grands traits, cela consiste en un processus de pacification qu'induit la généralisation de la société de cour, au sein de laquelle les valeurs physiques et guerrières sont dévalorisées au profit de la civilité et de la culture. On vient d'en avoir un exemple. Alors, Norbert Elias, en reprenant ce thème du monopole de la contrainte physique confisquée par l'État, qu'il a développé notamment dans l'ouvrage qui a été traduit en français sous le titre « La civilisation des mœurs », il se place évidemment dans la continuité des idées de Max Weber, qui avait, dès 1919, théorisé le fait que ce qui est en effet le propre de notre époque, c'est qu'elle n'accorde à tous les autres groupements ou aux individus le droit de faire appel à la violence que dans la mesure ou l'État le tolère. Celui-ci, donc l'État, passe donc pour l'unique source du droit à la violence, donc ce qui est le principe de la monopolisation étatique de la violence. Alors, on le voit dans l'esprit de Norbert Elias, la Cour, telle qu'elle est mise en place dans le cadre de la société de Louis XIV, sert en quelque sorte à désarmer les puissants et à créer finalement un monde sans violence autour du roi. Alors cette idée évidemment a fait l'objet de tout un débat historiographique, puis certains ont réfuté aussi cette vision en quelque sorte idéalisée et un peu trop schématique de Norbert Elias. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est pas forcément évidemment le schéma historique sous-jacent, mais c'est d'explorer cette idée qu'il y ait, en parallèle de la mise en place d'une société de cour, une réflexion aussi sur la violence et les moyens de la canaliser. Alors la question de la violence et de la manière dont elle est prise en charge et régulée par l'État, c'est une problématique particulièrement intéressante pour l'Égypte pharaonique, puisque les images de violence, on les voit sur tous les temples égyptiens. Vous avez tous en tête l'image du pharaon frappant de sa massue des étrangers qu'il tient par les cheveux. Elle a fait donc cette thématique fait l'objet de plusieurs contributions récentes. Donc je vous ai signalé quelques titres qui ne sont que des simples orientations bibliographiques qui vous montrent que dans les 10 dernières années, il y a eu une production relativement importante sur cette thématique. Alors, dans le contexte de la Cour, qui est le seul qui nous intéresse ici, évidemment, la violence n'est pas absente, bien au contraire. Le pharaon est soumis en permanence à la menace d'un complot qui peut être fomenté par ses proches. Et sur ce point, donc, les témoignages abondent, on les a déjà évoqués à propos des conspirations du début de la VIe dynastie. Vous avez peut-être en tête aussi celle célèbre qui a concerné le Ramsès III. Et on a un récit d'un attentat contre un pharaon dans le contexte directement de la cour à travers un enseignement, l'enseignement d'Amenemhat Ier, connu par des sources de la 18e dynastie, mais qui a généralement été attribué à la 12e dynastie, particulièrement au règne du successeur d'Amenemhat Ier, donc Sésostris Ier. Alors ce texte, il prend le titre formel d'un enseignement fait par le roi Amenemhat Ier, mais sa teneur tient autant à une sorte de récit amer sur l'exercice du pouvoir que un texte qui prodiguerait des conseils. Dans l'épisode central de la narration, Amenemhat Ier raconte comment une nuit, alors qu'il dormait, vous avez le texte ici sous les yeux, c'était l'après-dîner, une fois la nuit venue, comme j'avais pris un moment de bien-être, j'étais allongé sur mon lit, je m'étais laissé aller et mon esprit avait commencé à suivre ma somnolence. Or donc, les armes destinées à la protection furent mises en mouvement contre moi, qui me retrouvais traité comme un serpent du désert. Me réveillais-je à cause du combat, reprenant possession de mes moyens, que je constatais qu'il s'agissait d'une bataille engageant les gardes du corps. Quant au fait que je me précipitais les armes à la main, je fis reculer les lâches sous les coups, mais il n'y a pas de brave la nuit, il n'y a pas de combattant solitaire, le succès ne saurait advenir sans protecteur. Donc récit d'un combat nocturne dans les appartements royaux, le roi est réveillé par les bruits de combat entre ses gardiens et d'autres combattants, visiblement issus des troupes du palais. Le pharaon prend les armes lui-même, mais doit faire le constat amer qu'on ne peut se battre seul. Évocation donc désespérée qui laisse songer à une issue funeste pour le pharaon, qui parlerait dès lors d'outre-tombe. C'est en tout cas l'interprétation traditionnelle du texte, conçue comme une justification a posteriori pour son successeur, donc le pharaon Sésostris Ier. Et d'ailleurs, le texte prend la peine de préciser qu'Amenemhat a subi l'attentat avant que les courtisans aient appris que je te ferai transmission du pouvoir et avant que je me sois installé à tes côtés. Donc on met en scène le fait que l'attentat a surpris Amenemhat Ier alors qu'il s'apprêtait à transmettre le pouvoir à son fils Sésostris. Dans le texte, Amenemhat Ier va se lamenter sur l'ingratitude de ses sujets qui l'ont trahi alors qu'il dresse un bilan élogieux de son règne. D'une certaine façon, le texte dégage une grande amertume, fournit une image d'un pharaon solitaire qui ne peut pas compter sur sa cour. Et au début du texte, d'ailleurs, Amenemhat donne des conseils très explicites à son successeur en lui disant « Prête attention à tes subalternes ou à leur manigance, ne t'approche pas d'eux quand tu es seul, ne fais pas confiance à un frère, ne reconnais pas d'amis, ne te fais pas d'intime, ils n'ont pas d'intérêt. L'homme n'a pas de partisans le jour des difficultés. » Donc l'image d'un souverain solitaire qui ne peut être secouru par son entourage. Donc on le voit dans ce texte donc attribué au Moyen Empire, la violence peut se faire irruption au cœur même de la cour, dans la chambre du roi. Et le constat qu'en fait Amenemhat, c'est qu'il est très difficile de s'en préserver et de la tenir à distance. Alors un autre enseignement attribué lui aussi à un roi va fournir une image de la royauté certes sombre mais moins désespérée et en tout cas plus confiante dans le rôle que peut avoir la cour et les courtisans à l'appui du pouvoir royal. Ce texte, c'est l'enseignement pour Méricaré, connu par un petit nombre de manuscrits du Nouvel Empire. Le cadre historique de cet enseignement pour Méricaré, c'est celui de la première période intermédiaire, au temps de la royauté héracléopolitaine, donc à la 10e dynastie. Mais la date de composition réelle du texte reste vraiment délicate à déterminer entre le Moyen Empire et le Nouvel Empire. Nous reviendrons sur ce débat qui est fondamental un peu plus loin. On va d'abord entrer dans le cœur du texte. Alors, l'enseignement pour Méricaré, suivant la présentation qu'en donne Pascal Vernus, ce n'est rien de moins qu'un traité de la monarchie organisé en trois niveaux. D'abord, on présente l'art de gouverner en général, notamment par l'usage de la parole, et on va retrouver cette importance de la rhétorique et de l'éloquence qui nous a occupés tout à l'heure. Ensuite, on a une analyse de la conjoncture politique, notamment dans le contexte des menaces exercées par les peuplades aux marges de l'Égypte. Et enfin, troisième partie du texte, une théorie de la fonction monarchique qui ne cache pas les difficultés de la position du pharaon. Là encore, on souligne sa solitude dans l'exercice du pouvoir et aussi sa faillibilité qui l'amène à encourir le châtiment divin. Alors, un passage de la fin de l'enseignement résume bien la vocation du texte. Donc, le locuteur, qui reste inconnu, hein, on l'a attribué à Réti, mais on n'a pas le nom de celui qui s'adresse à Méricaré, dit « N'apporte aucune distorsion à mes propos qui donne toute règle relative au roi, c'est époux R. Nessou, qui t'instruise afin que tu t'élèves en tant qu'homme. » Donc c'est bien le cadre général de la royauté qui est concerné et voilà, l'appellation traité de la monarchie ne semble pas du tout galvaudée pour ce texte qui se veut définir même l'ensemble des règles à suivre pour un roi dans l'exercice de son pouvoir. Alors, ce qui va nous intéresser particulièrement dans ce texte, c'est d'abord le fait que, certes, il est centré sur la figure du roi, c'est un enseignement adressé au roi, mais c'est qu'il accorde une importance très grande au statut des courtisans, au point qu'on pourrait même peut-être parler d'un traité de la monarchie et de la cour. L'enseignement pour Méricaré met dans la bouche du roi une véritable théorie du pouvoir royal dans laquelle la cour et les courtisans constituent un rouage essentiel que le souverain doit absolument préserver et valoriser. Voici certains passages du texte qui soulignent l'importance qui doit être accordée aux dignitaires, aux hauts dirigeants, aux sérous. Alors, on trouve dans le texte à la fois des allusions aux sérous et aux ourous, qui sont les grands. Donc, entre les dignitaires et les grands, on va avoir un jeu qui est parfois assez subtil, qui peut parfois aussi avoir fait l'objet de confusion dans la tradition manuscrite du texte, mais disons la paléographie des signes employés est relativement claire et donc on peut distinguer les emplois de l'un et de l'autre. Dans un passage qui est cité ici en haut de l'écran, on nous dit « respecte les hauts dirigeants, les dignitaires, sérous, préserve tes hommes, renforce tes frontières et tes marches. » On retrouve ici le terme de respect, terre, qui marque une relation particulière fondée sur le partage de valeurs communes, on l'avait vu tout à l'heure. Et donc, cela conforte en quelque sorte l'analyse qu'on avait pu faire sur l'avènement d'une nouvelle relation qui s'établit en dehors d'une relation de subordination, d'une relation de respect hiérarchique. Ici, le roi conçoit qu'il convient de respecter des personnes qui soient inférieures à lui, mais qui sont fondamentales pour le fonctionnement de la société qu'il dirige. Un peu plus loin, c'est sur une considération pragmatique d'ordre socio-économique que l'auteur de l'enseignement justifie le soin que le souverain doit apporter à procurer à ses courtisans l'aisance financière. Accrois l'éminence de tes hauts dirigeants, les ourous, afin qu'ils exécutent tes lois. Celui qui est riche en son domaine ne saurait être partial. Celui qui n'a pas de point faible est celui qui possède. Le pauvre ne saurait s'exprimer en faisant sienne la ma'at. Celui qui dit « je voudrais bien avoir » ne saurait être équitable, car il est partial en faveur de celui qui a de quoi rétribuer. Grand est un grand quand ses grands se trouvent être grands. Alors ici, Joachim Kouak proposait de corriger deux fois « our » en « serre » pour créer une sorte de chiasme, hein. Grand est le dignitaire dont les dignitaires sont grands. Mais cela impliquerait une correction qui n'est pas indispensable et d'autre part, ça impliquerait l'idée qu'on puisse qualifier le roi de serf, ce qui n'est pas forcément indiqué. Le roi qui possède une cour est fort. Celui dont les dignitaires sont riches est opulent. À toi d'exprimer la Mahat dans ta maison afin que te respectent les hauts responsables qui s'occupent du pays, ou les dignitaires. L'exactitude du maître est la rectitude de pensée. C'est le centre qui suscite le respect de la périphérie. Donc là, Pascal Vernus propose de jouer sur la traduction entre centre et périphérie, alors que le texte donne le devant, ce qui peut aussi, ce qui est devant, renvoyer à une partie de du palais royal, on l'avait vu, hein, la partie avant, qui suscite le respect de ce qui est à l'arrière. Ce qui ressort de ce texte, c'est que la puissance du pharaon doit se construire sur un socle solide, constitué par une élite elle-même riche en moyens, à laquelle le souverain doit servir de modèle moral et de guide politique. La richesse est conçue de manière tout à fait pragmatique comme la condition d'une pratique indépendante de la justice. Alors avant de revenir là-dessus, je m'attarde véritablement sur ce texte parce qu'il est absolument fondamental dans la conception qu'on peut avoir de la cour en Égypte ancienne. C'est un des textes les plus explicites sur l'idée que les Égyptiens anciens se faisaient de la nature de la cour et de l'articulation qu'il y avait entre pharaon et courtisan. Le locuteur exprime très clairement la nécessité d'articuler le pouvoir pharaonique avec la puissance d'une cour qui lui est fidèle et rendu loyal par le comportement du pharaon. Alors, sur la question de la conjonction de la pratique de la justice et de l'opulence, elle se fait jour aussi dans différents autres textes, notamment des autobiographies de courtisans de la 12e dynastie. Ce passage de la stèle de Montouzer, qu'on avait déjà évoqué, vous savez, c'est ce personnage qui nous dit qu'il parlait à la manière des courtisans et qu'il ne prononçait pas les articles quand il s'exprimait, signe de vulgarité. Dans un autre passage, ce personnage, Montouzer, qui a vécu sous Sésostris Ier, nous dit « J'étais quelqu'un qui juge selon la justice, qui n'est pas partial envers celui qui verse des pots de vin, avec un S ajouté à pot. Je suis riche de qualité et d'opulence, sans que je ne manque d'aucune chose. » Là, il fait clairement la liaison entre son impartialité, sa capacité de juge incorruptible, et la richesse qu'il possède. Ce texte a été rapproché de l'enseignement pour Méry Carré par Keyes dès 1928, et on y a vu d'ailleurs une citation directe de l'enseignement pour Méry Carré, ce qui a pu fournir un terminus ante quem pour la composition de l'œuvre, mais ce lien n'est peut-être pas aussi déterminant qu'il apparaît en fonction d'une phraséologie qui est relativement courante. Pour revenir à la prise en compte du statut des courtisans, elle revient comme un leitmotiv dans plusieurs autres passages de l'enseignement pour Méry Carré. Dans un autre extrait, le locuteur dit « Mets en œuvre la Mahat, la justice, et tu dureras sur terre. Apaise celui qui se lamente, n'opprime pas la veuve, ne prive pas un homme du bien de son père. » Donc des considérations morales relativement habituelles. « Ne laisse pas les dignitaires dans leur position. » Donc là, plus spécifiquement, le roi conseille de ne pas dégrader le statut des dignitaires, de ceux qui l'entourent, sur, littéralement sur leur siège, c'est-à-dire la la position qui leur a été fréquemment transmise de génération en génération et qui constitue en quelque sorte leur capital. Donc il faut être très attentif à la position de chacun, à ses moyens, souvent hérités dans une longue tradition familiale, et les préserver. Alors on retrouve aussi à nouveau l'importance d'accroître l'éminence de tes hauts dirigeants dans une phrase où il est question de la nécessité de constituer une armée importante. Alors, à rebours de ce que nous dit l'enseignement d'Amenemhat Ier, l'enseignement pour Méricaré semble croire que la cour peut être un moyen de défense et de protection pour le roi, ce qui ressort du passage suivant. Il n'y a personne qui soit dépourvu d'ennemis, c'est quelqu'un d'informé que le maître des deux rives, un roi qui a des courtisans ne saurait être ignorant. Donc si la traduction est correcte, ce sont évidemment des passages assez difficiles à saisir, hein. Donc je vous donne à chaque fois une traduction établie, mais qui peut évidemment toujours faire l'objet de reconsidération. Ce qui ressort de ce texte, c'est que un roi qui est maître d'une cour, Neb Shenit, hein, donc on a l'appellation cour qui est ici utilisée, ne peut être pris au dépourvu et reçoit des informations de ceux qui l'entourent, et en quelque sorte, donc, les courtisans qui entourent le pharaon vont pouvoir l'informer sur les sources de conflits potentiels qui le menacent. Alors la suite du texte revient sur le caractère privilégié en quelque sorte du statut du pharaon, sur le fait que la monarchie est une belle fonction, mais qu'elle est aussi une fonction qui est par essence facteur d'isolement pour le pharaon. Elle n'a pas de fils, elle n'a pas de frère qui perpétue ses monuments. C'est en fait à la royauté de se construire elle-même sur la succession des rois d'assurer la mémoire des précédents et d'entretenir en quelque sorte cette continuité. Alors, sur le thème de la violence qui nous occupait dans cette partie, on a des évocations qu'il faut distinguer dans le texte de Méricaré, un passage qui a un sens spécifique, c'est celui qui concerne la mise à mort d'hommes dont le roi connaîtrait les qualités. Ne mets pas à mort un homme dont tu connais le harou et avec lequel tu as autrefois psalmodié des écrits, qui a libre accès dans la place des secrets. Si le bas parvient à la place qu'il connaît, c'est sans qu'il puisse dévier de ses itinéraires de la veille, sans qu'aucune magie puisse l'empêcher d'arriver à ceux qui fournissent sa libation. Alors le texte ici pourrait faire allusion à une volonté de ne pas se laisser aller à une violence démesurée avec des membres de la cour, hein, puisque ce sont des proches dont il est question. On évoque un homme avec lequel le roi a appris en quelque sorte les textes égyptiens. On retrouve ce contexte d'éducation à la cour que l'on avait évoqué dans les cours précédents, où les membres de l'élite, Memphite, mais aussi provinciale, étaient envoyés à la résidence pour étudier en même temps que le roi. Mais dans ce cas précis, on sent qu'il y a une motivation particulière au fait de ne pas mettre à mort quelqu'un qui a partagé cet apprentissage, c'est le fait qu'il est lui aussi acquis une compétence dans les textes magiques. Et c'est sûrement ce qu'il y a sous le terme « haru », hein, la capacité de transfiguration, de devenir un har que l'on peut acquérir à travers la maîtrise de formules magiques. Et c'est pour ça qu'ensuite, on évoque le libre accès dans la place des secrets qu'avait le personnage et le rôle du bas qui va pouvoir revenir sans qu'aucune magie puisse l'empêcher. L'idée sous-jacente ici, c'est certainement que le pharaon ne doit pas exécuter des personnes qui risquent de revenir après leur mort sous une forme de personnes maléfiques, de haru qui pourraient contrecarrer ses plans. Mais dans d'autres passages, l'action violente est repoussée sans que cet arrière-plan de crainte magique soit mis en avant, mais en soulignant que l'exercice de la violence doit être justifié et doit se faire dans un cadre institutionnel, en quelque sorte, et pas de manière arbitraire et personnalisée. L'auteur dit à Mary Carey, « Garde-toi de punir à tort, ne frappe pas quand cela ne t'est pas utile. Si tu dois punir, c'est avec des exécutants et des gardes. Ce pays sera remis en ordre grâce à cela, à l'exception du rebelle dont on reconnaît les desseins. Dieu connaît le factieux, et Dieu lui inflige une punition au prix du sang. » Donc il s'agit ici de réserver la violence à ceux qui sont des rebelles patentés. Et encore, faut-il le faire dans un cadre où le roi n'agit pas par vengeance personnelle et délibérée, et où, en fait, la punition est encadrée par une sorte d'action de l'État qui est aussi confortée par une sanction divine. Alors, la lecture de ces extraits de Mary Carey nous montre que l'enseignement a la forme d'un traité élaboré sur la royauté qui intègre celle-ci dans un édifice idéologique très cohérent qui combine aspects politiques, économiques, sociétaux et religieux. Dans cette construction, la cour joue un rôle fondamental, elle apparaît même au cœur du système, de sorte qu'une interdépendance totale est établie entre le pharaon et ses courtisans. C'est un aspect qui rejoint en quelque sorte le point de départ de notre étude sur la cour qui postulait précisément cette interdépendance, dont on voit ici qu'elle a été théorisée par les Égyptiens anciens eux-mêmes. Dans le cadre du propos qui nous intéresse, nous allons maintenant nous intéresser à des passages qui mettent en parallèle le rôle de l'éloquence et le rôle de la violence dans la cour. On revient dans ce cas au début du texte où il est question d'agir contre les factieux. C'est un autre aspect saillant de l'enseignement pour Mary Carey qui réside dans la méthode politique qui est prônée et qui fait une large place à l'art oratoire. Alors cet aspect avait été notamment développé brillamment par Philippe Derchin dans un article très inspirant qui s'appelle « Éloquence et politique, l'opinion d'Arteuil » dans la revue d'Égyptologie 40. En 1989, cet article était né d'une lecture conjointe de l'enseignement pour Mary Carey par Philippe Derchin et des maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, l'ouvrage de Marcel Détienne que j'évoquais tout à l'heure. Alors, dans ce passage de Mary Carey, le locuteur souligne la nécessité de bien identifier les opposants du roi, leur mode d'action et leur soutien, et d'adopter la bonne méthode pour les contrecarrer en s'appuyant sur la cour. Alors, le texte, malheureusement, est assez corrompu, ne permet pas de saisir toute la logique de l'argumentation, mais on en retient quand même le passage suivant, où on nous dit que c'est une cause de décadence pour la ville que l'agitateur, parce qu'il crée deux factions. On invite le roi à le dénoncer face à la cour, à la chénite, et à le chasser, car c'est aussi un rebelle. Et on souligne le fait que c'est un mal pour la ville que le rhéteur, le médoutis. Et donc il faut faire plier la multitude et chasser l'agité loin d'elle. Le terme traduit par rhéteur, médoutis, n'est que très peu attesté dans les textes égyptiens. Joachim Kouak a signalé une attestation du mot dans un papyrus démotique dans lequel il est question d'un violent affrontement oratoire. Et une autre attestation se trouve sur une statue d'Oremeb en scribe qui date donc du Nouvel Empire. C'est la statue se trouve à New York. Et on a un passage qui nous dit « J'étais quelqu'un qui réjouissait le maître des deux terres. Médouti en Meineb, critique envers tout manquement, et Tem Semer Djedoutneb, qui n'oublie aucune parole. » En tout cas, c'est la traduction qui me semble la plus adaptée pour ce passage qui en a connu beaucoup d'autres. Donc, ici, le terme Médouti est plutôt utilisé de manière positive hein, pour quelqu'un qui est très attentif, très critique contre ceux qui manquent au service du roi. Dans le sens de Méricaré, il caractérise un tribun qui est critique certainement à l'égard du pouvoir, qui peut être de basse extraction, on le voit dans le texte. Il n'y a alors pour le pharaon aucune hésitation à le chasser et à le combattre. Il a peu de chances d'être appuyé par des membres de la cour et son éviction ne suscitera pas d'opposition. Alors l'auteur de l'enseignement va ensuite développer l'idée que deux stratégies doivent être privilégiées par le pharaon pour imposer sa puissance. D'abord, le respect de la morale garantie par la justification auprès du Dieu. Bon, je passe rapidement. L'idée est d'assurer sa bonne réputation auprès du tribunal divin et de pratiquer la bienveillance. La deuxième stratégie, c'est le triomphe par l'éloquence. Un texte qui a fait l'objet de nombreux commentaires, y compris par moi-même, où on catégorise l'éloquence comme mode d'action à part entière. Sois expert en discours et tu seras victorieux, c'est l'épée d'un roi que sa langue. Les discours donnent plus de victoires que n'importe quel combat. On ne peut prendre à revers un esprit expert. Il résout les problèmes sur la natte, c'est-à-dire par la discussion. C'est le rempart des dignitaires, les sérous, que l'homme sage. Ceux qui savent qu'il possède le savoir ne l'attaquent pas. Il ne surviendra pas de malheur imprévu de son temps. La mate vient à lui filtrer sous la forme des paroles édictées par les prédécesseurs. Imite tes ancêtres et tes prédécesseurs. Regarde, leurs paroles perdurent dans les écrits. Déroule-les pour lire et imiter les savants. C'est de l'apprenti que naît l'expert. Alors ici, on le voit, on retrouve cette idée que le discours, c'est une catégorie d'action à part entière, hein, aussi puissant, voire supérieur que le combat. On signale aussi que la maat peut être utilisée dans un usage rhétorique pour en fait assurer la puissance du discours utilisé. C'est une utilisation en quelque sorte un peu cynique du savoir et de la maat pour assurer donc la supériorité du pharaon. En corollaire, on a une importance de l'apprentissage, de l'éducation qui donne un avantage certain à l'élite éduquée sur les tribuns, ces rhéteurs dont on a vu qu'ils souvent étaient d'extraction populaire. Alors cette idée de la supériorité de la langue éloquente sur l'épée, de la rhétorique sur l'usage de la force, se retrouve dans certains autres textes sapientiaux, comme l'enseignement d'un homme à son fils, qu'on a souvent cité aujourd'hui, où dans le début du texte, on a un passage qui rejoint l'idée de Méricarée sous une autre forme, épuise les possibilités du discours avant de faire usage de la force. Il n'y a pas de brute qu'on fasse accéder au conseil, celui qui est versé dans les discours s'ouvre l'écoute, il n'y a pas de frappeur auprès duquel on prenne conseil. Donc l'idée que la parole est supérieure à la force dans l'action, alors avec aussi un conseil final, explique les discours sans dénigrer, une parole offensante dévalue celui qui l'a dite, l'idée que la parole elle-même n'est pas une sorte de panacée, qu'elle doit être aussi régulée et qu'elle doit être maîtrisée selon une morale bien intégrée. Donc l'idée qu'on a vue ressurgir dans l'enseignement pour Méricarée et dans ce texte sapiential, c'est l'idée effectivement que l'art de l'éloquence peut venir dépasser en quelque sorte l'usage de la force, l'usage de la violence, et en quelque sorte on peut voir dans cette importance accordée à l'éloquence aussi un élément important dans le processus de civilisation qui est à l'œuvre dans la construction de la cour égyptienne, et en tout cas voir différentes étapes franchies dans ce processus à travers ces textes sapientiaux du Moyen Empire. Alors, je parle de textes du Moyen Empire, mais effectivement, cela ne va pas de soi. Très rapidement, j'évoque le débat qui est au cœur de l'enseignement pour Méricarée, la question de sa datation. Parce que dans les dernières décennies, on a beaucoup glosé sur la date de ce texte. Un certain nombre de chercheurs ont avancé l'idée que ce texte devait avoir été composé au plus près de la date du dernier manuscrit, du premier manuscrit qui le portait, à savoir la 18e dynastie. C'est notamment la théorie d'André Agnirs qui a pour cela avancé un certain nombre d'arguments que je ne vais pas reprendre en détail. Un certain nombre d'usages, de désignations en usage à partir de la 18e dynastie uniquement qui seraient intégrées au texte, des considérations sur la situation historique géopolitique, l'importance de la menace constituée par les Asiatiques, les parallèles établis avec la stèle de la tempête, et aussi la conception théologique sous-jacente à l'hymne final du texte, qui est un sorte de morceau de bravoure de la littérature égyptienne, particulièrement important dans l'histoire des idées, qui, pour André Agnirs, montre l'image d'un dieu créateur anthropomorphe qui, en tant que bon berger, pourvoit aux besoins de l'humanité, maintient la création du monde et, de ce fait, renvoie plutôt à l'image du créateur telle qu'elle est répandue dans les conceptions du nouvel empire égyptien et des conceptions qui apparaîtraient singulières dans le contexte du Moyen Empire. Du point de vue linguistique, des analyses très fines ont été proposées par Andreas Stoder, qui en tout cas permettent d'exclure la première période intermédiaire comme datation possible pour le texte. Une datation reste envisageable entre la 12e dynastie et la 18e dynastie, mais le bilan que fait Andréa Stauder des indices collectés le fait plutôt pencher pour la 18e dynastie. Alors, Joachim Kwak, qui est l'auteur de l'édition de référence de l'enseignement pour Mérie Carré, lui, c'est plutôt attaché à une datation 12e dynastie avec de solides arguments. Alors, il utilise aussi le terminus antequem de la stèle de Montouzère que nous avons évoqué tout à l'heure. Il signale aussi que même si les témoins de la transmission du texte à la 18e dynastie donc ne peuvent être reportés antérieurement, on s'aperçoit que le texte s'appuie sur un modèle qui est peut-être du Moyen-Empire si on se fie à l'utilisation de colonnes et à la paléographie de certains signes. Dans une étude sur le lexique de l'opposition et de la rébellion, Joachim Kwak a également souligné le fait que l'optique de l'enseignement pour Mérie Carré, défendant la royauté égyptienne, était légèrement différente des autres enseignements à tonalité loyaliste. Et pour lui, donc, si la date de composition est à fixer la 12e dynastie, elle doit intervenir plutôt de manière assez précoce parce que le pharaon chercherait ici plutôt à convaincre des indécis. Donc lui, il est partisan d'une datation au début de la 12e dynastie. Alors, il n'en reste pas moins que l'enseignement pour Mérie Carré reflète un contexte de la première période intermédiaire qui est étonnamment fidèle sous certains aspects à une situation politique caractéristique de cette époque, d'un conflit entre les héraclopolitains et les Thébains. Je vous donne ici deux références par Demitschik et Darnel qui soulignent ces parallèles. Et je signale aussi que du point de vue de la conception d'éloquence qui ressort de l'enseignement pour Mérie Carré, on va trouver des choses étonnamment parallèles dans des textes de la première période intermédiaire, notamment la mise en symétrie de l'idée des idées d'éloquence et de violence. Quand on a, par exemple, le passage de cette stèle Ker CG 1609, où le locuteur dit « Je suis un homme qui prend la parole le jour de la discussion, disposant d'un bras puissant le jour du combat », il met en quelque sorte en équivalence deux modalités de son action au monde, qui sont l'éloquence et la violence, étaient là aussi l'objet de la discussion au cœur de l'enseignement pour Mérie Carré. Au final, il est actuellement impossible de trancher sur la date de l'enseignement pour Mérie Carré. La proximité avec l'univers de la première période intermédiaire nous semble peut-être jouer en faveur d'une datation au Moyen-Empire plutôt qu'à une date plus récente où les références auraient été très obsolètes pour une œuvre créée ex nihilo à cette époque. Le débat restera nécessairement ouvert tant que de nouvelles données ne se seront pas fait jour. Alors, quelques mots de conclusion à la fin de ce cycle. Nous avons essayé cette année de lire un certain nombre de témoignages archéologiques et textuels de l'histoire de la première partie de la civilisation pharaonique, en prenant comme fil directeur la cour et les courtisans, une dimension certainement sous-évaluée de la civilisation égyptienne. Alors, vous en êtes aperçu, notre approche a forcément été sélective et largement incomplète, notamment pour ce qui concerne ce qui se passe dans les provinces égyptiennes, du fait de la masse de données disponibles. Elle a permis néanmoins, je l'espère, de souligner l'existence, à notre sens incontestable, de la société de cour et d'en cerner les mécanismes. La société de cour sert de modèle culturel à l'ensemble d'une société. On l'a vu. Cela paraît évident dès que l'on détaille l'impact de cette cour sur les différents témoignages que nous avons passés en revue. Notre source d'inspiration a été le courant de recherche né des travaux de Norbert Elias, qui, avec toutes les précautions qu'il faut prendre d'un point de vue historique, reste une œuvre très inspirante pour décoder une documentation souvent muette ou peu diserte en apparence. De ce point de vue, ce sont aussi les témoignages égyptiens qui parlent du rôle de cette cour et en théorisent en quelque sorte le fonctionnement qu'il était particulièrement important de mettre en lumière. Et nous l'avons fait essentiellement à partir de ce matériau riche et toujours en cours de renouvellement par les découvertes récentes que sont les textes sapientiaux, les enseignements. Ces textes élaborent en l'enrichissant l'idéal du courtisan, du dignitaire serf tel qu'il s'était affirmé dans les monuments privés de l'Ancien Empire. Un représentant de l'élite, rompu à l'étiquette de la cour, mais dont le comportement se conforme aussi à une morale, la ma'at, qui constitue une base commune au fonctionnement de la société. Et si l'on veut reprendre l'expression éliassienne de processus de civilisation, sans vouloir lui accorder une quelconque ambition d'explication globalisante, il semble approprié de l'utiliser en observant la manière dont les textes égyptiens proposent une nouvelle forme de civilité, promeuvant la notion de respect indépendamment des relations hiérarchiques et mettant en avant l'usage éclairé de la parole comme alternative à la violence. Cette dernière reste une composante essentielle du fonctionnement de la société, ne le dissimulons pas, mais la cour est certainement un espace politique dans lequel les acteurs ont pu chercher à la canaliser, voire à l'éviter. La problématique de la cour en Égypte peut toucher à de nombreux autres aspects qu'il nous a été impossible de traiter cette année. Rassurons-nous, il nous sera possible de les aborder dans la suite du cours, où nous envisagerons la question à partir de la documentation du Nouvel Empire, une période dans laquelle le développement des relations internationales amène de nouvelles dimensions au fonctionnement de cette cour. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite à nouveau une très belle année 2025. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.